Bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien? Ouais. J'étais en train de me demander s'il faisait plus frais, si j'étais juste fatigué, et du coup, ça faisait des sensations. Bref. Je me suis interrogé de savoir sur quoi j'allais parler, parce que j'avoue que l'argent, ça m'inspirait pas, surtout pour une étude biblique. Donc, j'ai réfléchi, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, force est de constater que je ne vais pas trouver par moi-même, donc j'ai prié. Et puis, un matin, j'ai ouvert les yeux d'un seul coup, comme ça. Donc là, j'ai du mal à le faire parce que je suis un peu fatigué, mais j'ai ouvert les yeux d'un seul coup et j'ai eu une conviction, c'est que j'allais parler sur les 30 pièces d'argent. Alors, je savais pas sur quoi j'allais parler, hein. Je savais que j'allais parler sur les 30 pièces d'argent. Après, il a fallu travailler. Donc, je vous propose de parler aujourd'hui, alors on va pas parler que de ça, mais la valeur du sacrifice de Jésus. Mais on va parler d'argent. Je vous invite à aller dans Matthieu, au chapitre 26. Est-ce que quelqu'un veut bien commencer la lecture, s'il vous plaît? Merci. Donc, 30 pièces d'argent. Alors, petite remise en contexte, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Judas, donc, qui était un des 12 disciples de Jésus. On le voit dans différents passages, mais on l'a notamment dans ces listes qui sont faites dans Matthieu 10 et dans Luc 6, où on a la liste des 12 disciples. Et puis, à chaque fois, on finit par Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus, Judas Iscariote, qui devint traître. Ça commence bien, il est bien désigné. Mais donc, il fait partie des 12 disciples, des 12 disciples les plus proches de Jésus. Et puis, la Bible nous dit que Judas aimait l'argent, puisqu'il est considéré comme un voleur. C'est ce que nous dit Jean au chapitre 12 et au verset 6. On nous dit que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc il y avait quand même un certain attachement pour la chose. Et la Bible nous dit que personne n'est venu chercher Judas. C'est Judas qui a été à l'initiative de la trahison. C'est ce qu'on voit dans Matthieu au chapitre 26 au verset 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Personne n'est venu voir Judas. Judas, de lui-même, on sent qu'il y a du ressentiment dans son cœur, il va voir les pharisiens et leur demande, en tout cas les principaux sacrificateurs, et il leur demande: « Qu'est-ce que vous me proposez pour que je vous vende Jésus? » Il y a quelque chose qui est assez remarquable dans ces différents passages, c'est que Jésus savait qu'il allait être trahi par Judas. On le voit notamment dans Jean au chapitre 6, en verset 64 à 71. On ne va pas lire tout, mais en tout cas, ce que j'ai mis en gras, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et le passage finit par ces termes: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, c'est Jésus qui parle, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc on voit que dès le commencement, Jésus choisit Judas malgré le fait qu'il sache que Judas finirait par le livrer. Cette trahison, elle semble être un projet que Judas a entretenu dans son cœur. C'est ce qu'on voit dans Jean au chapitre 13, au verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc là, on est sur le dernier repas de Jésus et pendant le souper, on a cette formule que le diable a déjà inspiré Judas et il a travaillé ce dessein de livrer le Christ. Et puis, un petit peu plus loin, au verset 20 à 30, il nous est dit, donc c'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit: en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément: en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit: « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit: « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Donc, on voit dans Matthieu 26 que Judas a du ressentiment à l'égard de Jésus, que le parfum qui a été versé sur Jésus semble être le déclencheur de sa trahison et qu'il a alimenté ce désir de livrer le Christ. Il va d'abord voir les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. On lui remet une somme d'argent. Et alors qu'il a à de multiples reprises la possibilité de faire marche arrière, il persiste dans son projet. Le diable continue d'alimenter son désir de livrer le Christ. Et à la fin, dans ce passage, on voit qu'il nous est dit que le diable entre dans Judas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Judas, il n'est pas exactement comme les autres disciples. Judas est décrit par Jésus comme impur. Impur, signe qu'il n'a pas accepté le message de l'évangile. On le voit dans Jean au chapitre 13, au verset 9 à 11. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Donc c'est au moment où Jésus se penche vers ses disciples et leur propose de leur laver les pieds. Et Jésus lui dit « celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « vous n'êtes pas tous purs ». Judas est décrit ici comme quelqu'un d'impur. Et le terme « pur », c'est la traduction du terme grec « kataros », qui signifie « libéré du désir corrompu, du péché, de la culpabilité, libre de tout mélange à ce qui est faux, sincère, véritable, sans reproche, innocent. » Donc, on voit que Judas est pleinement attaché au péché, pleinement attaché à des désirs corrompus et qu'il ne vivait pas la liberté qui lui était proposée. Malgré ce cheminement de 3 ans avec Jésus, il continuait d'être asservi par ses désirs corrompus, sa cupidité, sa fausseté, et lui qui tenait la bourse piochait dedans. Alors je me suis interrogé, quelle est la source de cette pureté qui manquait à Judas ? Parce que je me suis dit, bon, Jésus doit nous parler de cette pureté. Et on le voit dans Jean au chapitre 15, au verset 1 à 11, Jésus nous parle du vrai cep et de son père qui est le vigneron. Et il a cette formule, il dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » C'est la parole qui est annoncée qui rend pur. Et il continuera en disant « Demeurez dans mon amour, gardez mes commandements. » L'idée ici, c'est que Judas n'avait pas écouté la parole annoncée, ou du moins n'avait pas reçu la parole annoncée. Bien que ayant cheminé avec Jésus pendant des années, il n'avait pas intégré, il n'avait pas été touché par le message de l'évangile et la parole qui a été annoncée, il ne l'avait pas reçue. Ce qui a causé chez lui cette absence de transformation de vie. 1 Pierre au chapitre 1 au verset 22 nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et là encore, c'est le terme kataros qui est utilisé. On voit finalement que ce qui manquait à Judas, au-delà du fait qu'il n'avait pas reçu véritablement le message d'amour que le Christ était venu apporter, c'est qu'il n'aimait pas les gens qui l'entouraient. Il n'aimait pas Jésus, en tout cas, on verra, pas suffisamment, et il n'aimait pas en réalité ceux qui l'entouraient. Bien que présent avec les autres disciples, Judas n'avait donc pas entendu la parole annoncée, il ne l'avait pas mise en pratique et son cœur ne s'en était pas trouvé purifié. Il lui manquait, je pense, l'essentiel dans sa relation avec Jésus et dans sa relation avec les autres, l'amour. Et l'amour qu'il ne portait pas à Jésus, en réalité, il l'avait déporté sur autre chose. Son amour, qu'il aurait dû tourner vers les autres, était tourné vers l'argent. Judas en était devenu cupide, voleur, égoïste, tourné essentiellement vers lui-même, et on voit en réalité que les pauvres ne l'intéressaient pas, seul comptait son confort matériel. Je me suis dit qu'il y avait quelques enseignements pour nous-mêmes. déjà, Judas, il faut entendre que ça a été un des premiers appelés par Jésus, qu'il était extrêmement proche de lui. C'était un des privilégiés qui pouvait l'accompagner tout au long de son parcours terrestre. Et si on en croit Matthieu 10, il fut même de ceux qui reçurent le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc on voit quand même que ce n'est pas n'importe qui. Il fait partie des 12 et il a reçu de la même façon que les autres le pouvoir de chasser les esprits impurs, guérir les malades, réaliser des miracles. Pourtant, tous les enseignements qu'il a entendus n'ont pas changé son cœur. Il ne s'est pas laissé transformer par l'amour de celui qu'il accompagnait au quotidien et il est resté impur aux yeux de Dieu. Donc je me suis dit, bon, nous, on a, j'espère, cette proximité avec le Christ. Malgré tout, de là à dire qu'on a cette proximité au sens de marcher côte à côte avec lui tous les jours, au moins même sur le plan physique, c'est difficile de l'annoncer ainsi. Pourtant, Judas a eu ce privilège et il a réussi à passer quand même à côté. Donc je pense que ça doit nous encourager dans notre dimension de cœur à ne pas nous laisser distraire et à tourner notre regard vers Jésus, à garder à l'esprit que notre amour pour lui peut se faire détourner et on est appelé à veiller, à préserver cet amour. Pardon, toc. J'y vois quand même un lien avec cet enseignement qu'aura Jésus dans Luc au chapitre 8, cette parabole du semeur. Est-ce que quelqu'un peut la lire, s'il vous plaît ? Merci. Je me suis demandé dans quelle catégorie ranger Judas. Je me suis dit, est-ce que c'est celui qui est le long du chemin, qui entend et puis le diable vient et enlève de son cœur la parole ? Ou est-ce que c'est celui qui est tombé, est-ce que c'est la semence qui est tombée parmi les épines, qui sont ceux qui ont entendu la parole, qui s'en vont, qui la laissent s'étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie ? Peut-être un des deux, peut-être les deux en réalité, je ne sais pas trop. En tout cas, on voit qu'ici, on est encouragé à être de ceux où la parole tombe dans la bonne terre. Donc, ceux qui ont entendu la parole, qui, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et je pense que c'est ce qui a manqué à Judas. Il était au bon endroit, en soi. Il était apte à écouter la parole. Et pourtant, il est passé à côté, je pense, de l'enseignement de Jésus. Alors, prenons garde à notre dimension de cœur et surtout, si on peut retenir un vrai enseignement de cette histoire, c'est que l'ennemi se sert de nos points faibles, de nos fragilités, des éléments de notre vie dont on n'a pas laissé le plein contrôle au Seigneur en réalité pour nous conduire à notre chute. Ici, Judas, il n'a pas été cherché sur, je ne sais pas moi, l'impudicité, sur, il avait en soi, en lui, quelque chose déjà, un attachement à l'argent et le diable n'a fait que l'utiliser. Et je pense qu'en réalité, on a tous des points faibles, c'est normal, c'est la nature humaine. Maintenant, il y a lieu de laisser le Seigneur travailler tous les terrains, et notamment les terrains où on est les plus fragiles, dans ce souci de continuellement être renouvelé, de continuellement nous rattacher avec amour à celui qui nous a tout donné. Ce que j'ai trouvé intéressant avec Judas, c'est qu'il semblait bon sous tout rapport. La dimension de cœur de Judas, elle n'y était pas, ça c'est clair. Mais par contre, en apparence, tout allait bien. Quand on regarde dans la Bible, dans Jean au chapitre 12, quand les disciples assistent au versement du parfum de grande valeur sur le corps de Jésus, sur la tête de Jésus, Judas est le premier à s'en émouvoir en regrettant qu'on n'ait pas vendu ce parfum pour les pauvres. Personne n'a l'air forcément de douter de sa bonne conscience. On peut croire effectivement qu'il est dans une bonne dimension de cœur à l'égard des pauvres. Dans Jean chapitre 13, un verset plus loin, lorsque Jésus les informe d'un traître et désigne par son geste Judas, aucun de ceux qui étaient à table ne comprennent. On l'a lu tout à l'heure avec ce pain que Jésus va donner à Judas. Il part, Jésus lui dit « Va, presse-toi de faire ce que tu as à faire ». Et puis les autres disciples se disent « Bon, il va sûrement acheter ce qu'on a besoin pour faire la fête ». Ou pour commander quelque chose pour les pauvres. Personne ne doute de Judas. Pourtant, je me dis, je sais pas, vous êtes tous à table, vous êtes 13 du coup avec Jésus, vous êtes tous à table. Il y en a un qui vous dit qu'il va y avoir un traître. Jésus désigne le traître. Il n'y en a pas un seul pour le voir, quoi. Et tout le monde est « Oh, c'est Judas, il va aller chercher pour les pauvres. » Enfin bref, toujours est-il que Judas, en apparence, était loin de tout soupçon. Son attitude laissait entendre qu'il mettait en pratique les enseignements de Jésus. Mais Jésus, en réalité, sur cette terre, quand il est venu enseigner, il l'a clairement dit, les apparences sont trompeuses, c'est le fort intérieur, en réalité, qui compte. Et il a cette discussion avec un pharisien dans Luc, au chapitre 11, et à un moment donné, il va aller traiter les pharisiens d'hypocrites, en disant « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Sans doute que Judas n'avait pas entendu ou pas compris cet enseignement, parce que bien qu'en ayant lavé le dehors, en ayant pris soin de présenter de bonnes apparences, il était en réalité plein de rapines, de méchanceté, et veillait à sa propre satisfaction avant celle des autres. Ça doit aussi nous interroger sur qui sommes-nous ? Est-ce qu'on est véritablement ce qu'on présente aux autres, et notamment à l'Église ? Ou est-ce qu'il y a un travail encore à faire ? Sans doute qu'il y a toujours un travail à faire au fond de notre cœur, et ça, il n'y a que le Seigneur en réalité qui peut le faire. Donc, laissons-nous transformer, sachons voir les différentes faiblesses que le Seigneur peut pointer du doigt, et laissons-le œuvrer, parce que je pense que c'est pour le meilleur. Donc voilà pour les quelques enseignements pour nous-mêmes au titre de cette mise en contexte. Puis je me suis interrogé, parce que là, je ne vous ai pas trop parlé en réalité des 30 pièces d'argent pour l'instant. Le prix estimé du sang de Jésus. Cette somme, elle a servi à financer la trahison. C'est le prix qui a été payé pour que le Christ puisse se retrouver à la croix. On le voit dans Matthieu au chapitre 26, au verset 16, que j'ai lu tout à l'heure. Judas va voir les principaux sacrificateurs, pardon, « Que voulez-vous me donner ? Je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. C'est la valeur estimée, d'un point de vue humain, du sacrifice de Jésus. 30 pièces d'argent. Est-ce que, à votre avis, c'est élevé ? À votre avis, ça, en termes d'euros, c'est quoi ? Entre 10 et 10 000. Comment ? Je croyais que je l'avais noté, j'ai eu peur. Je croyais que je m'étais spoilé. Exactement. Par comparaison, alors je suis tombé sur un calcul qui prend en compte en réalité, qui fait un référentiel entre ce que gagnait un soldat de l'Empire romain à l'époque, salaire considéré comme relativement confortable, ça s'élevait à 500 deniers par an. Donc si on joue par équivalent en termes de pouvoir d'achat, 30 deniers, ça représente à peu près 1300 euros. Donc le Christ a été vendu pour un mois de salaire. Telle est la valeur à laquelle a été estimée sa vie, son sang, son sacrifice, un mois de salaire. Et donc là, je me suis dit, méfions-nous. Méfions-nous de toutes les fois où il nous prend l'envie de nous plaindre de notre condition de vie, de notre salaire mensuel. Même quand on gagne le SMIC, en réalité, ce qui tombe tous les mois, c'est le prix qui a été payé pour que le Christ parvienne à la croix. Le Christ est mort pour un SMIC. Donc à chaque fois que vous recevez un SMIC sur votre compte, vous dites « Amen ». Et si vous recevez plus, vous dites beaucoup plus « Amen ». Alors, ce qui est particulièrement intéressant, et Hélène vient de le dire, c'est que c'est exactement à cette somme qu'Exode 21 fait référence pour la mort d'un esclave à la suite d'un encornement par un bœuf. Exode nous dit « Si un bœuf, je crois que je l'ai noté, toc toc toc, lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 sicles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. » Le mot hébreu utilisé ici pour esclave, c'est « ébed », qui signifie aussi « serviteur », »,« celui qui est au service d'eux », voire « adorateur de Dieu » ou encore « serviteur d'Israël ». C'est le nom d'ailleurs qui sera utilisé dans les passages de l'Ancien Testament qui annoncent de façon prophétique la venue de Jésus. On le voit hein, dans Ésaïe, au chapitre 42, versets 1 à 3. « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » Là, c'est le mot « ébec » utilisé. « Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau de briser. » Cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Bon, si là on ne parle pas de Jésus, je ne sais pas de qui on parle, mais en tout cas, voici mon serviteur, Ébed. On le voit aussi dans Ésaïe, au chapitre 53, au verset 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur, Ébed, juste, justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je vous donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus, l'Ébed, a été tout au long de sa vie un serviteur et il me semble qu'il l'est resté jusque dans sa mort, jusque dans l'estimation humaine de la valeur de sa vie. La valeur d'un esclave, la valeur d'un serviteur qu'on voit sacrifié, c'est la valeur qui a été dépensée pour Jésus. Philippiens au chapitre 2, au verset 5 à 8, nous dit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Telle a été la valeur humaine du sacrifice de Jésus, la valeur d'un serviteur sacrifié, soit 30 pièces d'argent. Et cette somme, elle a fait naître chez moi quelques réflexions que je vous propose. Déjà, je me suis dit qu'elle témoignait quand même un paradoxe. Vous avez les pharisiens qui souhaitent faire mourir Jésus, et on n'a que ça dans les évangiles. Hein, vraiment, on a une flopée, je vous les ai mis, on a une flopée de versets qui témoignent d'une volonté des pharisiens de mettre à mort Jésus, considéré par eux comme un fauteur de troubles. Et en même temps, leur déconsidération totale pour sa personne. Parce que 30 pièces d'argent, si c'est la seule somme qu'ils sont amenés à proposer, c'est bien qu'ils ont en réalité une bien piètre estime de Jésus. Alors, quand on s'attarde sur le nombre de fois où il est question de vouloir faire mourir Jésus dans les évangiles, on se rend vite compte que c'est une obsession chez les pharisiens. Vous avez trois versets dans Matthieu, où il est clairement dit qu'ils vont entretenir dans leur cœur ce désir et qu'ils vont chercher par tous les moyens à le faire mourir. Vous en avez deux dans Marc. Vous en avez un dans Luc. Et alors, le plus beau, vous en avez huit dans Jean. Donc, voilà, au moins les quatre évangélistes sont raccord là-dessus. Il y a une volonté de mettre à mort Jésus. Et pourtant, à la fin des fins, quand on vient leur proposer la trahison ultime, ils ne proposent que 30 pièces d'argent. Ça m'interroge, ce paradoxe m'interroge. Ensuite, ce montant montre à quel point la cupidité a pu obscurcir le jugement de Judas. Il a trahi son ami, son maître, le Fils de Dieu, pour un mois de salaire. Et je me suis dit, c'est dire le caractère quand même dérisoire de son attachement à Jésus. Il était en position de force, là. Il y avait matière à négocier. Ça ne semble pas le cas. On lui dit, enfin, il demande, qu'est-ce que vous êtes prêt à me proposer? On lui dit, 30 pièces d'argent. Il dit, OK. Bon, je ne sais pas si vous, on vous le propose, même, allez, partons du principe que vous adorez l'argent. On vous propose de vendre un proche, pour 1300 euros. Ah, autant perdre un bras, hein, ça rapporte plus. Hein. En termes de dommages corporels, ça rapporte beaucoup plus. Bref, en tout cas, ça témoigne quand même d'une chose, c'est que je pense qu'on peut se faire, on peut voir notre jugement obscurci par à peu près n'importe quoi, par n'importe quelle passion terrestre. Ça renvoie à un des enseignements que Jésus a enseigné, qu'a donné Jésus dans Matthieu au chapitre 6, au verset 24. Pardon, nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Judas n'a pas servi en même temps Dieu et l'argent. Judas a choisi l'argent. Il était dans une telle cupidité que 1300 euros, quand il le mettait en balance avec le Christ, avec son ami, s'approchait en faveur de l'argent. Donc par son amour, il a accepté de trahir son ami. Sa soif de posséder, sa cupidité ont dénaturé à ses yeux la valeur que pouvait avoir la personne de Jésus. Et mine de rien, je pense que ça doit nous interroger aussi sur nos centres d'intérêt. Est-ce que parfois, nos passions ne dénaturent pas quelque peu l'image qu'on devrait avoir de la foi, l'image qu'on devrait avoir de Jésus, l'image qu'on devrait avoir de l'Église? Alors gardons-nous de l'aveuglement que peut entraîner une passion terrestre, notre jugement peut en être faussé, jusqu'à perdre de vue l'essentiel, jusqu'à en oublier l'importance du royaume de Dieu. C'est en tout cas l'enseignement que je tire de cette histoire de Judas. Et puis, c'est ma dernière réflexion, je crois, sur cette somme. Quand on compare cette somme et le prix du parfum qui sera versé sur Jésus peu de temps avant sa mort, qui se veut d'ailleurs l'élément déclencheur de la trahison de Judas, on se rend compte en réalité de la sous-évaluation de la valeur du sacrifice de Jésus et de l'étendue de l'injustice dont il est l'objet. Dans Jean, au chapitre 12, la valeur qui n'est pas donnée dans les autres évangiles, la valeur estimée de ce parfum qui sera mis sur Jésus, il est de 300 pièces d'argent. Autrement dit, Jésus a été sacrifié pour 10 fois moins cher que le parfum qui sera versé sur lui quelques jours avant sa mort. C'est donc bien que Marie, qui lui verse ce parfum, avait compris une réalité qui avait échappé à Judas. La réalité céleste du sacrifice de Jésus dépasse de beaucoup la valeur humainement estimée de son sacrifice. Marie, à l'inverse de Judas, avait entrevu la véritable valeur de la personne de Jésus. Sa dimension de cœur, à son égard, l'a poussée à utiliser ce qu'il y avait de plus onéreux, de plus précieux à sa disposition pour manifester sa louange envers lui. Donc là, on a véritablement deux individus radicalement opposés dans leur manière de voir les choses. Vous avez Marie, pleinement consciente de la réalité céleste de Jésus, qui, dans une volonté de lui rendre sa gloire, ou de lui rendre la gloire qui lui est due, lui verse un parfum d'une grande valeur sur les pieds. Et puis vous avez Judas, aveuglé par les choses de ce monde, par sa cupidité, qui, après avoir été témoin des miracles, avoir assisté aux enseignements de Jésus, le vend pour une somme 10 fois inférieure à celle du parfum. Deux individus, deux conceptions radicalement différentes de la personne de Jésus. C'est en tout cas le constat auquel je parviens à la fin de cette étude sur la somme en tant que telle. Et puis, je voudrais vous amener dans un troisième point, c'est la portée spirituelle de cette somme. Parce qu'il y a, s'il y a quand même quelque chose d'admirable dans cette trahison, c'est que Dieu va l'utiliser pour se magnifier. Le prénom de Judas utilisé dans le Nouveau Testament, c'est Judas, qui signifie « Dieu sera loué ». C'est fort quand même. Nom de Judas, Dieu sera loué. Le nom du traître résonne donc comme une promesse, Dieu sera loué. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce que Jésus va annoncer après avoir désigné Judas comme celui qui le trahirait lors de son dernier repas. Jean, au chapitre 13, au verset 31 à 32, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. » Par la trahison de Judas, le supplice et la mise à mort de Jésus, Dieu s'est glorifié. Le peuple rebelle a estimé la valeur du Christ, de son Sauveur, à 30 pièces d'argent. Dieu en a fait le rachat de l'humanité. Dieu a fait, en réalité, de ce sacrifice humainement déconsidéré un sacrifice de grand prix. Ce qui peut sembler contradictoire, un sacrifice pour 30 pièces d'argent qui devient un sacrifice de grand prix. La Bible, elle est claire sur ce point, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 18-19, reprend à peu près la même formulation. « Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » Le sang acheté pour 30 pièces d'argent est en réalité un sang précieux. J'ai un verset qui m'est venu quand je travaillais là-dessus, J'y ai vu un lien avec Genèse, chapitre 50, verset 20, de Joseph qui retrouve ses frères, qui l'avaient vendu comme esclave et qui leur dira « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus pourrait annoncer ? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je trouve ça admirable de voir que Dieu a changé le mal en bien, Dieu a changé une trahison pour un bas prix en un sacrifice de grand prix pour sauver l'ensemble de l'humanité. Et il est d'ailleurs intéressant de voir que les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient entrevu cette réalité sans la saisir, avant même que ne se réalise l'œuvre de la croix. On le voit dans Jean chapitre 11, versets 47 à 52. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît ? Merci. Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Et là, je me dis, ceux qui ont sacrifié Jésus, qui ont plaidé devant les autorités romaines pour le faire assassiner, ont été les avant-gardistes d'une promesse, entre guillemets, et ne l'ont pas comprise. Le Saint-Esprit s'est révélé, le Saint-Esprit a manifesté ici une prophétie qui n'a pas été comprise. Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Ben voilà, j'ai trouvé ça beau. Même eux avaient l'opportunité d'entrevoir la réalité céleste du sacrifice de Jésus. J'aimerais vous emmener un tout petit peu plus loin dans la réflexion, parce que la Bible nous parle d'un rachat nous concernant. Jésus est mort et ressuscité pour que nous soyons rachetés. Vous êtes d'accord avec ça ? J'ai bien fait mes recherches. On nous parle d'un rachat. Maintenant, je me dis, Matthieu 20, 28 donc, nous parle de ça en disant « Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Sa vie a été donnée en rançon pour racheter l'humanité. Alors, de quoi avons-nous été rachetés ? Romains, au chapitre 3, versets 23-26, nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui est à la foi en Jésus. Nous avons donc été rachetés de nos fautes passées, rachetés individuellement, de notre esclavage au péché. Tout le monde me suit pour l'instant ? Ouais. Donc, si on a été racheté de notre esclavage au péché, on a été un jour esclave. Quelle était la valeur d'un esclave dans l'Ancien Testament ? 30 pièces. La Bible nous dit, dans Galates au chapitre 4, que nous sommes passés d'esclaves à héritiers. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Nous étions esclaves, notre vie valait 30 pièces. Nous avons été rachetés par Jésus, par son sacrifice, pour passer d'un état d'esclave à l'état de fils, d'héritier par la grâce de Dieu. Voilà mon cheminement. Si nous étions esclaves du péché, notre valeur était celle d'un esclave, 30 pièces d'argent. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. La valeur du sang de Jésus est donc symboliquement de 30 pièces d'argent pour chacun d'entre nous. Véritable valeur du sacrifice de Jésus, 30 pièces multipliées par le nombre de personnes qui ont entendu, cru et accepté la parole annoncée. En réalité, le sacrifice de Jésus, effectivement, valait 30 pièces d'argent pour chacun d'entre nous. Parce que la libération, elle est individuelle avant d'être collective. j'aimerais vous emmener sur un dernier point, c'est le devenir de cette somme. Je vous emmène dans Matthieu au chapitre 27, au verset 1 à 10. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît ? Merci. Judas, pris de remords, après avoir livré Jésus parce qu'il avait condamné un innocent en réalité, cherche à rapporter les sous aux principaux sacrificateurs. Je ne sais pas ce qu'il attendait véritablement. Et puis, voyant leur refus, voyant leur absence de considération, lance les pièces dans le temple. Ce que je trouve beau, parce que donc les pièces vont être ramassées par les principaux sacrificateurs, ces gros hypocrites, conscients en réalité que c'est le prix du sang, disent qu'ils ne peuvent pas le remettre dans le trésor du temple et achètent avec le champ du potier qui servira de sépulture pour les étrangers. Ce que je trouve fantastique avec cet épisode biblique, c'est qu'il avait été prophétisé plus de 500 ans avant qu'il ne survienne. On trouve ce passage dans Zacharie 11, qui a probablement été écrit vers 480-470 avant Jésus-Christ. C'est les estimations qui sont données. Et Zacharie 11 nous parle d'un épisode alors assez étrange, hein, dans lequel Dieu a demandé au prophète Zacharie de jouer le rôle d'un berger et de s'occuper d'un troupeau voué à l'abattoir. Alors, on ne va pas le lire en entier, mais pour vous la faire courte, on a donc le prophète qui fait paître les brebis, et puis il a deux houlettes, deux bâtons, l'un qui s'appelle Grâce, l'autre qui s'appelle Union, et il finit par exterminer trois pasteurs en un mois. Et puis, à un moment donné, il va rompre son bâton, le bâton qui s'appelle Grâce, il va le rompre. Et puis quand il va s'avancer pour demander son salaire, les gens vont lui donner 30 pièces d'argent. C'est le salaire de son travail qui va être estimé à 30 pièces d'argent. Et l'Éternel va lui dire au prophète, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 sicles d'argent et je les jetais dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisais ma seconde houlette, Union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. » On voit ici que on a une prophétie. Alors, moi, j'en ai trouvé un commentaire que je trouve assez intéressant. Il s'agirait en réalité d'une prophétie d'un jugement à venir à l'encontre d'Israël, jugement qui est survenu, hein, pour avoir crucifié le Christ, prédisant la chute d'Israël en 70 après Jésus-Christ et la dispersion derrière de la nation qui va suivre. Le passage dit donc que Zacharie va se débarrasser de trois bergers, ou trois... dans ma version, c'est trois pasteurs. Et les analystes disent que c'est sans doute une référence aux trois offices religieux qui, à l'époque de Jésus, ont œuvré pour condamner Jésus. Les anciens, les scribes et les chefs des prêtres. Ensuite, Zacharie donc, va briser ses deux bâtons de berger. L'un d'eux, nommé Grâce, est brisé pour symboliser la rupture de l'alliance avec le peuple désobéissant et le fait que Dieu va mettre de côté sa faveur pour permettre au jugement de s'abattre sur eux. Et le second bâton, nommé Union, est brisé pour représenter le démantèlement de la nation par les Romains. On va avoir ensuite une dispersion du peuple hébreu. Mais moi, c'est la dernière référence prophétique qui m'intéresse, qui est relativement bien détaillée et qui renvoie directement au texte qui nous intéresse. Ce sont ces 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent qui, au vu de leur faible prix, et d'ailleurs c'est dit assez ironiquement un beau prix, vont être jetés dans la maison de Dieu et vont être reprises pour acheter le champ du potier, pour le donner au potier dans cette prophétie de Zacharie. C'est donc la retranscription parfaite de ce qui va advenir de la somme qui aura été versée à Judas pour qu'il trahisse Jésus. Cette somme ridicule sera jetée dans la maison de l'Éternel, finira par revenir au potier. Moi, j'ai traduit cette trahison de Judas et ce qui en a résulté par « bien mal acquis, ne profite jamais ». Et je me suis dit, ça serait fou quand même que ce soit une réalité biblique. « Bien mal acquis, ne profite jamais », ça sonne bien. Bah, j'ai trouvé un certain nombre de versets qui renvoient directement à cette notion. Proverbe 10:2, « les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort ». Proverbe 21:6, « des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort ». Parce que c'est pas ce qu'a expérimenté, dans tous les sens du terme, Judas. Jérémie, chapitre 17, verset 11, « Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. » Proverbe 15, verset 6, « Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. » Proverbe, chapitre 10, verset 16, « L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. » Bon, du coup, ça doit éventuellement nous interroger sur qu'est-ce qui tombe sur notre compte en banque. Est-ce qu'on est toujours dans la dimension d'une richesse justement et sagement gagnée? Mais en tout cas, je pense que c'est l'amer constat qui est vécu par Judas, qui finira donc par se suicider. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce champ du potier. Il existe toujours. Il est matérialisé ici par un sanctuaire, Akeldéma, le champ du sang. Ce qui est magnifique dans la tradition juive, c'est que ils ont beau ne pas reconnaître Jésus comme le Sauveur, le champ du sang est resté le champ du sang. C'est resté un lieu de sépulture et on a rien construit dessus. Et c'est toujours dans la culture juive d'aujourd'hui que ce champ du potier, ce champ du sang. De là à croire que il touche du doigt une certaine réalité la réalité céleste, il n'y a qu'un pas. Et il est situé, parce que je l'ai cherché un peu partout, alors je l'ai matérialisé là. On est à 1 minute en voiture. 1 minute en voiture, j'ai vérifié sur Google Maps, des piscines de Siloé. Donc on est vraiment à l'extrême sud de la ville. Voilà, c'était pour vous le montrer, vous pouvez taper sur Internet ce champ du potier qui a été acheté avec les 30 pièces d'argent. Et la Bible nous dit qu'il servira de lieu d'ensevelissement pour les étrangers. Et je me suis interrogé, est-ce qu'on ne peut pas y voir ici une signification spirituelle ? Est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce lieu d'ensevelissement des étrangers, dans ce champ du potier, acheté avec le prix du sacrifice de Jésus, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau. Parce que Paul nous dira dans 2 Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 12 à 13, que nous avons été ensevelis avec Jésus par le baptême, que nous étions morts par nos offenses et qu'il nous a rendus à la vie avec lui. Et c'est exactement les mêmes termes qui sont repris dans Romains au chapitre 6 et au verset 3 à 11, où Romains nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Il y a donc cette notion quand même dans notre conversion, dans notre baptême, d'un ensevelissement, d'une mort, d'une résurrection, d'un ensevelissement. Et si on met en parallèle cet ensevelissement que nous avons connu, nous qui avons choisi de suivre Jésus avec Éphésiens 2, qui nous dit que nous étions autrefois des païens, des étrangers aux alliances de la promesse, alors moi, en tout cas, je vous interrogerai à la fin, je vois quelque chose de magnifique se dessiner. De la même façon que le champ acheté avec le prix du sacrifice de Jésus a été un lieu d'ensevelissement pour les étrangers, le sacrifice de Jésus est le symbole de la mort des étrangers au royaume de Dieu que nous étions. Notre vieil homme, étranger à la promesse, a été crucifié avec Christ, et en acceptant ce sacrifice comme nôtre, nous avons revêtu l'homme nouveau, nous permettant de changer d'identité et faisant de nous des co-héritiers de Christ. Je vous le résume par ce schéma, par ces quelques points. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse des gens du dehors. Nous étions des gens du dehors, c'est ce que nous dit la Bible. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché soit détruit. Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, exactement comme les étrangers dans le champ du potier. Nous avons revêtu l'homme nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous ne sommes dès lors plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais des gens de la maison de Dieu, des co-héritiers de Christ. Je trouve que le parallèle est magnifique. Le lieu qui a été acheté avec les 30 pièces d'argent, le prix du sang de Jésus, était un lieu où on ensevelissait les étrangers, de la même façon par le sacrifice de Jésus, nous, qui étions étrangers à toute promesse, étrangers au royaume de Dieu. Nous avons été ensevelis par le sacrifice de Jésus et nous sommes ressortis de nouvelles créatures capables d'accéder au royaume de Dieu par cette justification que Jésus est venu accomplir. Alors, en conclusion, Jésus avait été vendu par un homme cupide, aveugle et sourd des miracles et enseignements dont il avait été témoin pendant les 3 ans de ministère de celui qui l'a trahi. Et il n'a fallu que de 30 pièces d'argent pour le convaincre de sacrifier son ami, de vendre littéralement le Fils de Dieu. Si la trahison est abjecte, le sacrifice qui en a résulté est admirable. L'humanité tout entière a été rachetée pour 30 pièces d'argent, pour le prix que l'on payait lorsqu'un serviteur trouvait la mort accidentellement. Jésus s'est présenté tout au long de son parcours terrestre comme un serviteur, et il l'est resté jusque dans la mort. Néanmoins, ce n'est pas parce que la vie de Jésus a été humainement évaluée à 30 pièces d'argent que c'est la véritable valeur du sacrifice auquel il a consenti. La Bible est claire, nous avons été rachetés à un grand prix. Seulement, pour comprendre la portée du sacrifice de Jésus, pour comprendre l'étendue de ce dernier, l'homme doit sortir de son aveuglement et il ne peut le faire qu'avec l'action du Saint-Esprit. C'est ce que nous dit dans 2 Corinthiens, c'est ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors ne nous laissons pas aveugler par le Dieu du siècle présent. Et pourquoi ne pas considérer que le Dieu de ce siècle présent, en tout cas pour certains, est l'argent? Mais laissons notre intelligence sans cesse être renouvelée par l'action de l'Esprit pour pouvoir chanter. Et il y a ce chant qui m'est venu avec sincérité de cœur. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, je pense que c'est quand on arrive à pleinement prendre en considération que toutes les choses pâlissent à la lumière de Jésus, qu'on rentre dans une véritable dimension d'adoration. Amen.